Actu SF, les podcasts.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir pour cette conférence Cthulhu et ses petits camarades de la folie Lovecraft. Alors, je vais vous présenter un tout petit peu Lovecraft pour ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur. Et puis après, bien sûr, nos intervenants vont nous parler de leur rapport avec Lovecraft, de ce qu'ils aiment chez lui et ce qu'ils aiment moins aussi peut-être chez lui. Alors, Lovecraft, né en 1890 à Providence, Rhode Island, est mort dans cette même ville en 1937. Donc, l'auteur de récits fantastiques, d'horreur et de science-fiction. Ce qui caractérise, je pense, vraiment l'œuvre de Lovecraft, c'est leur caractère onirique et pessimiste. L'être humain qui découvre certaines vérités cosmiques cachées devient fou. Lovecraft a créé un panthéon cosmique qui comprend des entités antérieures à l'homme et qui, en termes de pouvoir, lui sont bien supérieures. Donc, Toulou, évidemment, l'entité la plus connue, mais aussi Nyarlathotep, Azathoth et Yog-Sothoth, pour les petits camarades. Je ne sais pas si je les prononce bien, hein, mais bon. Alors, d'après Lovecraft, ces entités sont en sommeil ou enfermées et il vaudrait mieux pour l'humanité qu'elles le restent. Ses écrits s'échelonnent entre 1905 pour les premières histoires macabres jusqu'à 1927-35 pour le mythe de Cthulhu. C'est un auteur qui est quand même assez ancien, on va dire, pour nous. Et pourtant, il est plus que jamais dans l'actualité. J'ai été très surprise de voir qu'en 2017, 19 livres autour de Lovecraft ou de Lovecraft ont été publiés. Donc, il est vraiment très, très à la mode. Parmi eux, des livres illustrant son univers ou ses textes. Nous avons donc parmi nous François Barranger pour l'appel de Cthulhu, qui est un livre absolument magnifique. Des retraductions de certaines de ses nouvelles et je voulais aussi parler du projet de financement participatif pour la réédition des œuvres chez Mnemos, en sachant que le seuil de départ était de 10 000 euros et qui s'est retrouvé à dépasser les 390 000 euros récoltés, donc c'est absolument gigantesque. Et donc on peut bien parler de folie Lovecraft et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi avec nos invités. Donc à ma gauche, François Barranger, illustrateur et écrivain. Vous avez notamment écrit Dominium Mundi, paru chez Critique, qui s'est taillé un joli succès. Aujourd'hui donc, on va vous demander de parler de la version illustrée réalisée pour l'appel de Cthulhu. Il s'agit du texte intégral de la nouvelle. C'est donc un grand format et un très beau livre. Tout à ma droite, Karim Berouka est écrivain. Votre texte de 2016, Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, a reçu le prix Julia Verlanger. Vous êtes aussi musicien, parolier et chanteur du groupe punk. Plus ? Vous l'avez été longtemps.
Non, j'ai joué dans un groupe catholique qui s'appelait Kansas.
Là, je ne vous crois pas du tout, en fait. Et on verra que la musique joue un rôle important dans votre texte le plus récent, celui qui vous vaut donc cette invitation à cette conférence, qui est Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. On verra pourquoi la musique est importante dans ce texte. Gilles Menegaldo, donc vous êtes professeur de littérature américaine et de cinéma à l'université de Poitiers et parmi vos spécialités, il y a Frankenstein et Lovecraft, ça tombe bien. Donc récemment, vous avez dirigé l'ouvrage Lovecraft au prisme de l'image, littérature, cinéma et art graphique chez Le Visage Vert. Donc il s'agit de cet ouvrage. Alors, je voulais commencer par une question un petit peu générale pour vous demander comment est-ce que Lovecraft est entré dans votre vie ?
Bonjour à tous. Moi, c'est assez classique, je crois. C'est par le jeu de rôle, quand j'avais 16 ans, où des copains m'ont dit « Tiens, on va jouer à un jeu sympa, tu vois, c'est marrant. » Moi, je connaissais Lovecraft de nom seulement. Et très vite, j'ai compris que dans ce jeu, il était important de savoir ce qu'on allait rencontrer comme créature. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen pour être au courant, c'est de lire les œuvres dont c'est tiré. Et donc, j'ai commencé à lire du Lovecraft de cette manière-là, presque pour tricher au jeu de rôle, en fait. Et j'en suis jamais sorti, quoi. C'est à l'époque, j'étais déjà dessinateur. Et tout de suite, j'ai commencé à essayer de dessiner les créatures, etc. Et ça ne m'a jamais quitté. Voilà.
Merci. Il y a différentes raisons. Alors, moi, évidemment, c'est avant que j'ai rencontré Lovecraft. J'étais un grand admirateur d'Edgar Poe. On m'avait dit que Lovecraft était une sorte de continuateur de Poe et que le maître à écrire de Lovecraft, c'était Edgar Poe, ce qui est confirmé dans son essai. Hein. D'autre part, bon, il se trouve que pour des raisons universitaires, je cherchais un sujet de thèse qui soit un peu plus original que Edgar Poe, parce qu'il était beaucoup traité. Donc j'avais un intérêt, disons, professionnel, entre guillemets, à essayer de travailler sur un auteur qui était nouveau, que je ne connaissais pas effectivement. Et bon, par ailleurs, plus précisément, j'ai été fasciné notamment par la présentation des villes extraordinaires chez Lovecraft. C'est pas le monstre, c'est pas ça qui m'a plu au départ, c'est plutôt ces villes oniriques, ces villes magiques, ces villes extrêmement décadentes, dont d'ailleurs qui ont aussi des inspirations littéraires antérieures. Voilà, et c'est après peut-être que j'ai commencé à m'intéresser davantage à ce qu'on appelle au panthéon lovecraftien. Pour aller vite, on en reparlera, j'imagine.
Moi, j'ai découvert ça à la bibliothèque du collège, je crois. Voilà. Il y avait des livres de Lovecraft, ça me paraissait assez différent de ce qui se faisait à l'époque, parce que je lisais beaucoup de SF. Et bah, j'ai commencé comme ça, j'en ai pris un, puis j'en ai pris deux, j'en ai pris trois, puis après, il n'y en avait plus, donc j'ai lu des trucs d'autres auteurs qui étaient... je ne sais plus comment il s'appelait, Auguste Delres ou je ne sais pas quoi. Donc les éditions à l'époque n'étaient pas très claires. Il y avait quand même marqué en gros Lovecraft, puis en tout petit. Non. Mais ce n'était pas de lui, mais j'aimais bien aussi. Voilà. Donc, voilà.
Et quelle influence son œuvre a-t-elle ou a-t-elle eu sur votre formation d'artiste ou sur vos sujets d'études?
Sur ma formation d'artiste, pas particulièrement... Parce qu'en fait, j'en ai dessiné beaucoup quand j'étais ado et jeune adulte, disons. Mais après, non, quand je suis rentré à l'école d'art, c'était pas quelque chose qui était très très présent. Là, je songeais surtout à comment j'allais gagner ma vie. Et donc, j'en ai pas énormément dessiné. Par contre, c'est vrai que on en parlera peut-être après, mais la genèse de cette édition illustrée, c'est justement pratiquement dès le début. C'est-à-dire, dès le début, c'était présent dans mon esprit que j'avais envie d'essayer d'illustrer une de ces nouvelles. Mais je me sentais pas de taille à le faire quand j'étais trop jeune. Et après, au fil des années, j'étais persuadé que quelqu'un l'avait déjà fait. Je me disais, bon, ça sert à rien, quand même. Et il y a quelques années, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui s'est fait. Et puis, il s'avère que personne ne l'avait fait. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le faire. Mais après, sur ma formation d'artiste stricto sensu, ça n'a pas eu beaucoup d'influence en tant que tel.
Gilles Menegaldo.
Oui, ben moi, ça a été un sujet d'étude pendant quelques années, on va dire, et encore un petit peu maintenant. Ce qui m'intéressait au départ, c'est un peu le paradoxe d'un écrivain qui se définit comme matérialiste athée et qui invente un panthéon de divinités. Bon, après, la question, c'est qu'est-ce que sont ces divinités ? Parce qu'on verra que ce ne sont pas seulement des divinités. Le sujet du festival, c'est le monstre, hein, la créature d'altérité, la créature d'altérité. Et effectivement, les monstres lovecraftiens ou les entités lovecraftiennes, comme ils les définissent, entities, ce sont des choses qui peuvent se définir de multiples façons, et c'est ça qui est assez fascinant. L'autre aspect qui m'a passionné aussi, c'est l'hybridité ou le mélange des genres, hein, pour dire les choses, qui est finalement relativement moderne, hein, et peut-être qui explique aussi en partie l'engouement de Lovecraft. Ce caractère universel aussi qui fait que ça peut s'adapter dans différentes cultures. Et puis, surtout, le côté, ce qu'on pourrait dire, enfin, en termes un peu techniques, transmédialité, c'est-à-dire le fait qu'on passe assez facilement de la littérature à la bande dessinée, justement à l'illustration, au cinéma, à la télévision, au jeu de rôle, au jeu vidéo. Et c'est vrai que c'était intéressant ce qui a été dit, ce que disait François, parce que beaucoup de gens ont redécouvert les textes de Lovecraft par le biais du jeu de rôle, évidemment. Voilà, pour dire les choses très vite.
Non, moi, ça a été une passion de jeunesse, en fait. Hein. J'ai beaucoup aimé Lovecraft. Et puis après, j'ai arrêté de... Une fois que je les avais lus, je les ai rangés dans un tiroir. Hein. Enfin, dans une bibliothèque, plutôt. Mais non, je ne sais pas si ça a eu une influence, de toute manière, clairement. Puis je les ai relus, là, quand j'ai eu envie d'écrire un bouquin qui s'inspirait de... Donc j'ai redécouvert Lovecraft plusieurs dizaines d'années après. Et voilà.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de celle qui n'avait pas peur de Cthulhu ?
Ah bah non, surtout pas. Oui, c'est un bouquin qui est inspiré clairement par ce panthéon cosmique qui est très peu défini hein, dans les bouquins de Lovecraft. Il y a des petits paragraphes à gauche à droite, ce qui a laissé quand même beaucoup de liberté aux gens qui ont continué après Lovecraft à raconter des histoires lovecraftiennes, on va dire. Et moi, j'ai récupéré ces petits bouts et puis j'en ai fait une sorte de monde où il y aurait des sectes Super. C'est le matin.
Il y a une secte qui est très portée ouais. sur... Voilà.
Ouais, sur le sexe aussi, voilà. Et donc il y a plusieurs sectes qui sont qui vénèrent ces déités cosmiques indicibles. Et voilà. Bon, alors en fait c'est ce qui aurait pu se passer si Lovecraft avait été considéré comme une sorte de prophète. Je pense qu'il y a bien quelque part dans le monde des gens qui vénèrent Nyarlathotep ou Yog-Sothoth. Donc voilà. Et puis en plus, c'était un défi que je me donnais parce que ça faisait à peu près 30 ans que j'essayais d'écrire correctement les noms des bestioles et c'était chaud.
Oui, alors ce qui est frappant dans ce que tu viens de dire ou vous venez de dire, c'est justement la sexualisation de Lovecraft qu'on trouve aussi par exemple dans un ouvrage dont on va discuter peut-être plus tard qui s'appelle Le Néonomicon d'Alan Moore. Où justement il y a aussi une secte d'adorateurs de Lovecraft et ce qui est de disons on a beaucoup dit que Lovecraft c'était il y avait un problème disons avec la représentation du sexe, la sexualité, etc. Ça se passe toujours de manière on va dire monstrueuse justement mais en fait ce que fait Alan Moore c'est de rendre explicite un implicite, disons, à certains égards du texte. Quoi. Voilà, c'est des choses que je voulais dire par rapport à Alan Moore et qui fait partie des gens qui ont peut-être contribué beaucoup au renouvellement de la popularité de Lovecraft dans les dernières années.
Karim, je voulais aussi vous demander la caractéristique aussi de votre roman, c'est d'intégrer, il me semble, une de vos marques de fabrique qui est l'humour, avec l'univers de Lovecraft, qui n'est pas forcément évident, je trouve, en fait, ce rapprochement. Au second degré, mais...
Ouais, c'est pas ce qui se fait généralement, parce que c'est vrai que Lovecraft ne devait pas être un joyeux de riz, hein, qui devait pas... Mais j'ai déjà vu des films où, en s'inspirant de Lovecraft, un film humoristique qui était très bien, dont je me rappelle absolument pas du nom, mais c'est pas grave. Non, c'était plus récent, et pas très connu, en fait. Et pourquoi pas, hein, à partir du moment où on fait une sorte de parodie, qui reste aussi un hommage, on peut très bien intégrer de l'humour. Mais c'est très bien parce que le livre, c'est de l'anti-Lovecraft en fait, parce qu'il y a de l'humour, Lovecraft n'écrivait pas des histoires drôles. Il y a une femme, Lovecraft ne mettait pas de femme ou très très peu dans ses romans.
Aucune.
Si, dans l'appel de Cthulhu, il y a quand même la femme du marin qui ouvre la porte.
Oui,
quand même.
Donne...
Bah, il est mort le marin, donc
wow, le rôle.
C'est un peu dommage. Hein, parce que, sinon, il aurait frappé à la porte et puis l'enquête se serait arrêtée là. Mais les raisons de l'absence des femmes dans les romans de Cthulhu, je ne la connais pas exactement. Je n'ai pas conversé avec Lovecraft via des tables tournantes. Mais bon, pour moi, ça me semblait un peu... renverser le mythe en fait, voilà. Voilà, Monsieur Lovecraft, vous n'avez pas voulu de femme dans vos romans, eh bien je vais en faire un à votre place, ça vous apprendra.
Et du coup votre héroïne Ingrid, quand l'histoire commence en fait elle connaît pas du tout le Lovecraft, son univers, et en fait elle va découvrir vraiment à l'insu de son plein gré quel est le centre du pentacle. Peut-être qu'elle va jouer un rôle important dans la résurrection de Cthulhu.
Voilà, Cthulhu qui est toujours au fond de l'océan, comme tout le monde le sait, là, au fond du Pacifique. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous tapez sur ou pas Wikipédia, je sais plus, sur internet, vous tapez les coordonnées. Qui sont d'ailleurs dans le... Il faut faire attention parce que dans la version j'ai lu poche, elles sont fausses, ils se sont plantés. C'est quand même dommage. Ouais. Et donc, alors, pour trouver les bonnes versions en VO, hop, vous le tapez et vous arrivez sur la carte que vous met Internet généralement, qui doit être Google Maps ou je sais pas quoi, vous voyez Riley. Enfin, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais donc ça existe vraiment, et Cthulhu au fond de la mer, et Cthulhu un jour va revenir pour mettre sa race à toute l'humanité parce qu'il est un peu énervé. Et donc cette fille se retrouve embringuée dans une histoire où elle doit déclencher ou pas déclencher le retour de Cthulhu. Elle n'y croit pas, elle n'a pas envie d'y croire et il va falloir la convaincre.
François Baranger, vous pouvez nous parler un petit peu de la façon dont est né ce projet un petit peu hors norme ?
C'est une envie. C'est que j'avais envie de voir ce livre et personne ne le faisait. Donc comme je suis illustrateur, on est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc autant le faire. En fait, moi, comme ma formation plus précise, c'est concept artiste pour le cinéma et le jeu vidéo. C'est-à-dire que je fais des illustrations préparatoires pour les films ou les jeux vidéo. Et donc c'est souvent des images relativement spectaculaires qu'on me demande. Et à force d'en faire au fil des années, je me disais sans arrêt, ce serait marrant d'appliquer ça à Lovecraft. Ce que j'ai envie de voir, moi, depuis toujours, un Cthulhu qui fait vraiment un kilomètre de haut et pas juste 70 mètres, Herlié qui jaillit du Pacifique, qui est vraiment cyclopéenne et effrayante et qui n'est pas juste un monolithe qui sort de la mer. Tout ça, j'avais envie de le voir. Et puis, surtout, je partais de l'idée que je ne devais pas être le seul. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de fans de Lovecraft, beaucoup de lecteurs. Tu l'as dit toi-même, en ce moment, il y a une espèce d'effervescence, tout le monde le retraduit, on sort énormément de choses dans cet univers. Donc, c'est clairement, il y avait une attente pour ça, quoi. Et donc, autant marier l'utile à l'agréable. Si les gens le veulent et si j'ai envie de le faire, bah, autant le faire.
Et comment ça s'est fait avec Brajlon, alors, du coup ?
Ah, en fait, je suis venu avec le projet clé en main. C'est vraiment un truc que j'ai pensé... Dans mon coin, je l'ai maturé tout au long des années, en prenant mon temps. Ça s'est étalé sur plusieurs années, je ne l'ai pas fait d'une traite. Et ce qui m'a permis vraiment, je pense, d'arriver à exactement ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que parfois, on a des regrets quand on sort un livre un peu vite. Un an après, on se dit « Ah, j'aurais fait la couve comme ça » ou « Tiens, j'aurais pu changer ci ou ça. » Bon. Là, j'ai eu tout le temps de réfléchir. Donc, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, si ce n'est pas bien, il faut vraiment m'en faire le reproche à moi, pas à l'éditeur. Et donc, je suis venu avec le projet quasi terminé. La maquette était faite, la couve était faite, etc. Et Brajlon a dit oui tout de suite. C'est vraiment qu'ils sont très très pointus sur l'univers Lovecraft. Ils connaissent bien ça, ils savent le vendre et ça les a emballés tout de suite.
Et sur quelle technique vous avez travaillé ces illustrations ? Comment vous les avez faites ?
C'est entièrement numérique. C'est-à-dire que moi, étant donné mon grand âge, j'ai étudié avant l'arrivée des Wacom et de Photoshop. Et donc, j'ai appris à dessiner et à peindre en traditionnel. Mais j'ai mis assez longtemps à mettre au numérique d'ailleurs, parce que ce n'est pas intuitif au début. Mais une fois qu'on maîtrise à peu près l'outil, c'est un gain de temps considérable. Donc une illustration d'une double page de ce livre que je vais mettre une semaine ou 10 jours à faire sur ordinateur, je vais mettre un mois à la faire en peinture. Donc c'est juste pas possible. C'est-à-dire, ce bouquin, j'aurais pas pu le faire en traditionnel, quoi. Donc c'est 100% numérique.
Gilles Ménegaldo, sur quel aspect ou sur quels aspects portent vos recherches sur Lovecraft ?
Mais disons qu'au départ, c'était plutôt cette question de la mythologie lovecraftienne, c'est-à-dire et sa relation aussi avec la culture américaine, c'est-à-dire comment s'inscrit Lovecraft dans la culture américaine de son temps. Puisque là aussi, il y a eu beaucoup de malentendus, surtout au début, en France en particulier. On a considéré Lovecraft justement comme une sorte de prophète. On a considéré ces textes comme des avertissements vis-à-vis de l'humanité, de ce qui pourrait se passer, etc. Il y a effectivement des sectateurs, enfin, il y a des gens qui ont écrit des textes ésotéristes ou occultistes par rapport à Lovecraft. Donc, quand la correspondance a été publiée, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça, parce que la correspondance a été publiée relativement tard en français. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup d'humour dans la correspondance, qu'il n'y a pas forcément dans les textes. Dans les textes, il y a de l'humour, mais qui n'est compris que par un cénacle de gens que fréquentait Lovecraft et avec qui il correspondait. Donc, il a écrit des milliers de lettres, hein, pour ne pas dire des centaines de milliers de lettres. Voilà. Donc, il y a cet aspect d'humour aussi chez Lovecraft. Bon, les personnages féminins, on en reparlera peut-être, parce que c'est un peu un point aveugle de la critique. Et en fait, il y a beaucoup de féminins chez Lovecraft. Mais bon. Non, mais peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Non, mais oui, alors donc, ce qui m'intéressait, c'était ça. Le rapport aussi à, encore une fois, tout ce qui est controversé chez Lovecraft, son écriture considérée comme grasse, considérée comme excessivement excessive, adjectivale, etc. Au contraire, d'autres l'apportant au nu, justement pour les mêmes raisons, par son côté baroque, etc. Savoir quand même que Lovecraft, c'est une contradiction vivante, c'est-à-dire quelqu'un qui est inspiré par le XVIIIe siècle, par le style du XVIIIe siècle, qui refuse la modernité, en grande partie, la technologie, etc., qui en même temps est fasciné par la science, qui est fasciné par ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de mysticisme, puisqu'il, par exemple, c'est un grand admirateur de Nicolas Roerich, dont il parle dans Les Montagnes Hallucinées, qui était un grand mystique, et en même temps, évidemment, matérialiste, athée reconnu, etc. C'est aussi cette contradiction, et ça, c'est peut-être l'aspect très novateur de Lovecraft, c'est le rapport entre ce qu'on pourrait appeler le cosmique et le régional, c'est-à-dire qu'on a une description extrêmement précise, ancrée historiquement, des petites villes de Providence qui sont, bien sûr, des fictions chez Lovecraft, hein, qui sont fictionnalisées, sauf Providence. Donc Providence est l'exception, mais Arkham, c'est une ville imaginaire évidemment, mais qui emprunte des traits aux autres. Donc il y a une très grande précision, et puis en même temps une espèce de vista cosmique, alors évidemment qu'il doit à des auteurs antérieurs, hein, mais quand même, je crois qu'il a apporté une grande originalité, ce qui fait aussi peut-être encore une fois cette son évolution. Et ça a alimenté un autre type de controverse critique cette fois. Est-ce que Lovecraft c'est de la science-fiction ou est-ce que Lovecraft c'est du fantastique? Maintenant on dirait est-ce que Lovecraft c'est de la fantasy ou du merveilleux, etc. Et donc on est toujours au croisement de ces genres-là. C'est cette chose-là qui m'intéressait. Et puis plus récemment, bah, vu que ce que je disais au début, c'est-à-dire que Lovecraft est quelqu'un qui s'adapte facilement, hein, je me suis intéressé plutôt aux adaptations cinématographiques et aux adaptations en bande dessinée. Bon, alors peut-être la dernière en date qui m'a le plus fasciné, c'est Le Providence en 4 tomes, je crois, d'Alan Moore, qui est vraiment une extraordinaire recréation de l'univers lovecraftien. Voilà.
Moi, je trouve que le bouquin, là, il est magnifique, déjà. Bon, ça, c'est une chose de dite, voilà. Et je trouve que graphiquement, depuis longtemps, on a des choses très intéressantes, parce qu'en fait, l'écriture de Lovecraft, elle est faite pour l'imagination, elle n'est pas faite pour la représentation. C'est assez, malgré les adjectifs, c'est pas très décrit. Tu lues un peu plus décrit, mais je trouve qu'au niveau graphique, on a des choses magnifiques. Par contre, au niveau cinéma, j'ai jamais vu quelque chose de convaincant. Je pense que tout ce côté tension, peur, non-dit, une fois passé à l'image, ça disparaît. Et moi, j'ai jamais vu un bon film inspiré de Lovecraft. Donc, il y en a peut-être un.
Directement inspiré, il n'y en a aucun, clairement. Mais par contre, à part la bande, il y a quand même les œuvres de Carpenter. On a la fameuse trilogie de la folie, où on a dans l'entre de la folie, qui n'est pas forcément son meilleur film, mais où il y a des références directes à Lovecraft. On a un personnage qui s'appelle Pickman, par exemple. Il y a juste avant, un peu avant, Le Prince des Ténèbres, qui n'est pas non plus référencé Lovecraft, mais qui peut faire penser à Charles Dexter Ward ou des trucs comme ça. Et on a surtout The Thing, et moi, le film le plus Lovecraftien que je connaisse, qui est pratiquement Les Montagnes Hallucinées, moins la cité cyclopéenne, quoi. On remplace la cité par une navette spatiale, enfin un vaisseau spatial, et qui est dans la non-descriptibilité des créatures, voilà, qui est le truc le plus Lovecraftien que je connaisse, et qui accessoirement est un petit chef-d'œuvre du genre, quoi. Mais c'est vrai que par contre, des adaptations directes, littérales et bonnes, il n'y en a aucune.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il me semble quand même qu'il y a, bon, on pourrait faire une petite exception pour le Roger Corman, le Paléanté, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments lovecraftiens. Et puis, il y a un film de Dan O'Bannon, donc qui a collaboré à Alien, et qui a fait une œuvre peu connue, qui est adaptée justement du roman Charles Dexter Ward, et qui, je trouve, assez remarquable, malgré le caractère un peu problématique des effets spéciaux de l'époque, parce que c'est un film un peu fauché, disons, mais il y a quand même des choses intéressantes de ce point de vue-là. Mais globalement, effectivement, vous avez raison tous les deux, Lovecraft est difficile à adapter et beaucoup de gens se sont... Voilà. Alors peut-être qu'il y a un autre auteur aussi, on sait qu'il est fasciné par Lovecraft, c'est Guillermo del Toro, qui devait justement faire une adaptation des Montagnes Hallucinées, qui ne s'est pas faite, mais dont on trouve des traces de l'univers lovecraftien, dont nombreux de ses romans graphiques, et aussi des romans graphiques qui l'ont inspiré, et aussi dans ses films, notamment Hellboy, où il y a une créature très lovecraftienne au début du film et ensuite à la fin aussi d'ailleurs avec des scènes très spectaculaires. Donc on peut avoir des regrets que Guillermo del Toro n'ait pas pu mener à bien son projet. Puis juste pour un truc qui est moins connu, un film américain mais réalisé en fait par un auteur qui doit être américain, allemand, qui doit être d'origine asiatique, je me souviens plus de son nom, peu importe, mais son film s'appelle Die Farbe, donc la couleur en allemand, et c'est en fait un long métrage adapté de La couleur tombée du ciel, qui est un des textes peut-être les plus originaux de Lovecraft. C'est un film en noir et blanc et que je vous recommande vraiment parce qu'il a essayé de faire vraiment une adaptation qui soit efficace. Voilà. Peut-être un petit mot quand même pour Stuart Gordon, qui s'est échiné pendant des décennies, hein, depuis Reanimator, dont on parlait, pour essayer d'adapter Lovecraft. Et donc avec des bonheurs plus ou moins grands, mais il y a quand même un vrai effort d'adapter l'univers lovecraftien chez Stuart Gordon. Voilà. Donc je lui rends hommage, même si c'est pas toujours convaincant.
Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée et fascinée dans L'Appel de Cthulhu, illustré par François Barranger, c'est que quand vous le lisez, à un moment, il y a presque un effet cinématographique. Je suis rentrée dans le texte où le texte s'est projeté en moi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et j'en parlais un tout petit peu avec François Barranger. C'était tout à fait voulu.
Oui, oui, c'est totalement volontaire, puisque moi, justement, l'essentiel de mon activité, c'est pour le cinéma. Et donc, quand j'ai commencé ce projet, je me suis dit, imaginons que je travaille pour un grand réalisateur, pour James Cameron, Steven Spielberg ou n'importe qui aurait envie enfin d'adapter sérieusement l'Appel de Cthulhu, comment on s'y prendrait? Voilà. Donc c'est comme si j'avais fait 27 double planches, comme si j'avais fait 27 concept art pour la production d'un très très gros film à très gros budget. En me mettant vraiment dans l'état d'esprit de je travaille pour un réalisateur comme je fais habituellement, sauf que donc il me donne des consignes, sauf que cette fois la consigne c'était donnée par le texte de Lovecraft lui-même quoi. Et donc c'est peut-être pour ça qu'au final ça se sent à ce point-là quand on parcourt le livre.
Je veux dire un mot simplement pour dire que j'admire beaucoup ce livre et que je trouve qu'il y a vraiment une tentative de rendre compte de quelque chose qui, alors justement comment dire. Les monstres, les créatures, les entités ne sont pas fondamentalement visibles, enfin réalistes, elles sont toujours dans un arrière-plan, dans un côté un petit peu fondu, un peu. Et j'ai beaucoup aimé aussi le travail sur la lumière, enfin sur le contraste entre l'ombre et la lumière, et puis la palette la palette de couleurs, pardon, qui est même tout à fait, enfin, très très belle. Je trouve ça assez fascinant de voir effectivement l'harmonie entre le texte et l'image. Voilà, bravo, je voulais dire que j'attends le prochain avec impatience.
Oui, moi aussi.
Est-ce que vous avez une œuvre que vous préférez chez Lovecraft, un texte qui vous a marqué, et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Non, pas spécialement. J'ai pas souvenir de tous les textes. Je pense La couleur tombée du ciel à ma relecture, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai découvert, il y avait énormément de textes et je ne sais pas exactement lesquels venaient de Lovecraft et lesquels venaient de... Ouais. Mais ça ne me gênait pas à l'époque. Je dirais, ouais. Je préfère La couleur tombée du ciel que L'appel de Cthulhu, parce que je trouve que L'appel de Cthulhu, la fin, elle est un peu gentillette pour une créature qui mesure je ne sais pas combien de kilomètres. Il dirige son bateau dedans et pof, elle se dégonfle.
Donc, oui, en fait, il n'y a pas de fin. Il arrête l'histoire net.
C'est ouais,
Et alors, il va se passer un truc incroyable et puis c'est fini.
Voilà. c'est assez frappant. Ça va être compliqué, là, on l'arrête. Mais je pense que l'effet évolue, c'est bien. Mais bon, voilà, ça marche peut-être moins bien aujourd'hui qu'après avoir lu beaucoup de choses. Mais quand j'ai découvert ça, quand j'étais tout jeune, c'était vraiment les textes qui me foutaient les pétoches. J'avais jamais lu quelque chose d'aussi intense. Bon, depuis, j'ai découvert d'autres choses.
Moi, j'aime beaucoup L'appel de Cthulhu parce qu'il y a quand même une découverte progressive à travers un système de récits enchâssés, bon, etc. Les dimensions policières très intéressantes aussi. Et puis, bon, pour expliquer cette fin, moi, je sais pas, tout simplement, c'est une créature qui est faite d'une sorte de protoplasme qui fait que justement, on peut la traverser. Mais après, elle se recompose. Donc voilà. Donc en fait, elle est éternelle dans ce sens-là. Donc c'est une explication comme une autre. Bon après, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a plusieurs phases dans l'écriture lovecraftienne. Au début, c'est vraiment quelqu'un qui est imitateur de Poe, clairement, et qui fait des textes macabres, on va dire. Il y a aussi un auteur dont on n'a pas parlé, mais je vais lui rendre hommage ici. C'est un auteur irlandais qui s'appelle Lord Dunsany, qui a été l'une des grandes inspirations de Lovecraft, et c'est à lui en particulier que Lovecraft doit sans doute ses descriptions de cités de type oriental, merveilleuses ou maléfiques, enfin, etc. Et puis petit à petit, il évolue vers un univers que certains ont appelé conjectural, du côté science-fiction, etc. Et là, il y a certains, ce qu'on appelle les grands textes lovecraftiens, le texte du Panthéon et tout. Et dans ces textes-là, moi, j'aime bien Les montagnes hallucinées, parce que je trouve que c'est un texte qui résume énormément d'aspects de l'univers lovecraftien dans un cadre très particulier, donc une enquête archéologique en quelque sorte au pôle, et avec un système de monstruosité au carré ou au cube en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on découvre toujours une entité plus monstrueuse qu'une autre, quoi. Donc finalement, tout ceci, et en même temps, ça reflète aussi idéologiquement l'évolution de Lovecraft quand il dit à un moment donné cette phrase, c'était des entités extraterrestres, c'était des monstres, etc., mais c'était des hommes. Donc l'idée est que finalement le moi et l'autre ne sont pas si éloignés que ça. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui rachète Lovecraft par rapport à ses accusations fondées évidemment de racisme, d'ethnocentrisme, etc.
Moi en fait, après en avoir lu beaucoup quand j'avais 16 ans, j'en ai relu quelques-unes au fil des années, mais pas tant que ça. Et donc du coup récemment j'ai tout relu pour me faire une idée plus précise de ce que j'allais faire après L'appel de Cthulhu. Et je me rends compte qu'en fait, moi j'ai toujours préféré Les Montagnes Hallucinées. Peut-être parce qu'aussi j'adorais The Thing de Carpenter et c'est un univers qui me plaît. Et à la relecture, depuis, avec mon regard qui a évolué au fil du temps, je me rends compte qu'en fait je préfère L'Appel de Cthulhu. C'est-à-dire que L'Appel de Cthulhu, c'est pour moi une espèce de synthèse presque parfaite de tout ce qui fait les qualités de Lovecraft dans ses autres textes, mais qui sont parfois un peu entachés par certains défauts, des répétitions, pas des défauts de style, parce que moi j'aime beaucoup son style, mais des défauts narratifs qui font que parfois il met un peu 150 pages à amener un truc qu'on a compris dès la première page. Quoi. Donc c'est parfois un petit peu agaçant, c'est un peu désuet, mais bon. Et du coup, L'Appel de Cthulhu, elle est très synthétique, très, très directe, et surtout ce système de flashback imbriqué les uns dans les autres, puisque toute l'histoire est bâtie autour d'un flashback, mais à l'intérieur de ce flashback, d'autres personnes racontent ce qui leur est arrivé, et dans lesquelles d'autres personnes leur racontaient, je vais y arriver, aussi ce qui leur était arrivé. Et je crois que, sauf erreur de ma part, à un moment donné, on arrive à 5 niveaux de flashback imbriqués les uns dans les autres, dont il faut sortir après, il faut remonter comme ça. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant d'un point de vue narratif, c'est même assez moderne d'une certaine manière. Et c'est vrai que la fin, moi je suis pas dingue de la fin non plus, pas pour le côté réaliste ou pas, parce que de toute façon c'est Cthulhu, hein, mais c'est plutôt pour le côté brutal en termes narratifs, où il fait monter la sauce pendant toute la nouvelle et il arrête au moment où on a envie de voir la suite. Quoi. Ça, c'est très clair. Quoi. Donc c'est, même en termes d'illustration, ça va poser des problèmes parce qu'il n'y a presque plus rien. C'est-à-dire que la partie qu'on attend pendant toute l'histoire, qui est la partie de Cthulhu qui émerge de la cité, qui se fait attaquer par le bateau, qui retourne dans sa cité, etc. Et moi, je voulais le montrer en détail, donc je voulais faire beaucoup d'illustrations. Et donc je me retrouve avec des pages au début qui ont 2-3 colonnes de texte. Et les dernières pages, il y a juste un paragraphe posé sur chaque page, parce qu'il n'y a plus rien à raconter. Quoi. Donc, et après, pour faire court, j'aime énormément Les Montagnes Hallucinées, mais j'ai un petit faible pour L'Abomination de Dunwich, qui a, moi je trouve, une espèce de poésie obscure, de noirceur, qu'on ne trouve pas si souvent que ça dans Lovecraft. Dans Lovecraft, il y a souvent de l'étrange et de l'horreur, du saisissement, mais une noirceur poétique comme ça, ce n'est pas si souvent. Donc Dunwich, très fan.
Karim Berouka, il est beaucoup question de musique dans celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. L'une des factions qui poursuit Ingrid est à la recherche de la mélopée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Parce que moi, ce qui m'a surprise en fait en lisant votre texte, c'est que chez Lovecraft, encore une fois, sur ce que j'ai lu, il est beaucoup question d'imprécation, de cris de souffrance dont on ne connaît pas la cause, des rituels sombres, etc. Mais pas finalement vraiment beaucoup de musique.
Je ne sais plus ça. En fait, j'ai pris 5 des déités cosmiques qui me semblaient les plus intéressantes, et puis j'aurais collé des sectes qui correspondent un peu à la description vague dont qu'on avait fait Lovecraft, et alors là, je ne sais plus qui c'est, Yoxotot ou je ne sais plus quoi, parce que dans il y a cette histoire de flûtiste amorphe et des mille chevaux. Ah non, ça c'est les... Alors je ne sais plus pourquoi, mais il y a une histoire de
Azathoth,
ouais, c'est Azathoth avec ses histoires de flûtiste informe qui joue au fin fond du chaos nucléaire. Et, du coup, le truc à imaginer, c'est un peu bon. Ok, qu'est-ce que ça peut bien être? Et puis, je me suis dit que c'est viennois, là, puisque c'est des Viennois qui aiment beaucoup la musique, puisque Vienne a un rapport avec la musique assez important. Avait entendu, venant des étoiles, une sorte de mélopée qui les inspirait, qui a inspiré notamment tous les artistes et compositeurs qui ont séjourné à Vienne. C'est vrai, hein, c'est absolument. Et donc, voilà, ils adorent Azathoth en lui. Enfin bon, mais chaque secte a sa petite particularité qui est un peu en rapport avec les on va dire les caractéristiques. J'ai fait un peu un jeu de rôle. J'aurais mis des caractéristiques. Donc Azathoth, musique, Shim-Nugurath, c'est très lascif. Donc c'est une secte de hippies satanistes qui courent dans les prés nus et qui forniquent. Donc voilà. Mais c'était pour m'inspirer pour pousser à fond un truc aberrant sur prendre le côté le plus absurde de ces créatures sans forcément appuyer sur le côté horrifique.
Il y a aussi une secte qui est très drôle, qui je trouve très inspirée du cauchemar d'Innsmouth avec les hommes batraciens.
Oui, bah c'est les profonds en fait. Enfin, voilà, les, ceux qui viennent et qui sont à Innsmouth et qui vivent sur le récif et qu'on voit dans la nouvelle arriver pas très bien, mais qui viennent piquer les femmes et les enfants pour les, je sais pas ce qu'ils en font, mais bon, après ils font des hybrides. Et donc voilà, ben, ces hybrides-là ont créé une société qui s'appelle, je ne sais plus, les Scuba Diving Innsmouth Society. Enfin bref, ils se sont reconvertis dans la plongée sous-marine, qui semble assez évident. Et voilà, donc il y a une antenne à Paris, il faut le savoir. Je ne vous dirai pas où c'est, parce que sinon vous allez vous planter devant pour avoir des autographes. Mais... voilà, c'est un monde fictif, c'est notre monde où effectivement il y a des véritables adorateurs de Cthulhu, de Cthulhu entre autres, mais de toutes les déités cosmiques. Et il y a effectivement des gens, les hybrides par exemple dont parle Lovecraft, tout le monde est là. Enfin, c'était pour faire plaisir à l'auteur.
Et est-ce que faire un texte qui rend hommage ou qui se moque de Lovecraft, qu'est-ce que ça a représenté du coup comme défi?
Ah bah c'est, alors ça se moque pas tant de ça que Lovecraft, hein, c'est plutôt mais non, c'est bien, moi j'aime bien prendre les trucs très archétypaux que les gens connaissent tous. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais lu Lovecraft. Je pensais que tout le monde avait lu Lovecraft, mais c'est des choses que tout le monde connaît, au moins dans ce milieu. C'est l'image de Cthulhu, ça parle. Enfin, on va vous montrer une sorte de poules gigantesques, on va dire, ah, mais c'est que tu lues. Sur les t-shirts, j'en vois passer tous les jours. Donc c'est marrant de prendre ces choses que tout le monde connaît, d'en faire, d'en retourner un peu le... Et il y a un truc super intéressant dans Lovecraft, c'est que comme il n'a pas eu d'héritier, ou pas à ma connaissance en tout cas, les droits ont un peu vogué à gauche à droite, et tout le monde a récupéré l'autorisation... C'est pas une autorisation. Tout le monde a pris le droit de faire du Lovecraft, de s'inspirer de Lovecraft, de réutiliser ses noms. Et si on regarde les autres grands auteurs du siècle dernier, ben c'est pas le cas. On peut pas mettre des hobbits dans les romans de fantasy. On peut pas mettre des Tarzans dans nos romans d'aventure. On peut pas mettre de Tintin nulle part. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que je trouve que ça fait à la fois, ça permet plein de créativité de la part d'auteurs, d'illustrateurs. Par exemple, la nouvelle, il n'y a pas besoin de demander des droits pour récupérer la nouvelle.
Je confirme.
Ouais. De n'importe qui, de jeux de rôle. Donc, ça fait vivre Lovecraft sur plein de panels de créativité. Et je trouve ça vraiment bien. Et j'aimerais bien qu'on fasse la même chose sur plein d'autres. D'autres histoires et auteurs connus qui sont décédés depuis, je sais pas, 10, 20 ans, 30 ans, quoi. Je trouve ça dommage qu'on nous interdise de faire, par exemple, des histoires de Tarzan ou de Mickey dans l'espace, j'en sais rien. Alors, ça porte, enfin, je pense que Lovecraft s'en porte pas moins bien. Tout le monde connaît maintenant Lovecraft et je suis pas sûr que, un autre exemple, Howard, je suis pas sûr que beaucoup de gens connaissent Howard de nom. Et que Conan, sans le film avec Schwarzenegger, je suis pas sûr qu'il ait eu autant de postérité. Ouais.
Juste rajouter un truc par rapport à ça. Lovecraft était très généreux et donc il permettait à ses amis d'utiliser son imaginaire. Donc voilà, il n'y avait pas de d'ego entre guillemets surdimensionné par rapport à ça. Et donc ça, je crois qu'on peut lui rendre hommage. Donc voilà, juste pour confirmer.
Je dis peut-être une bêtise, hein, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, les auteurs partageaient assez facilement des petits clins d'œil comme ça, qu'ils allaient chercher un peu à gauche.
Et d'ailleurs, Lovecraft et Robert Howard étaient amis, ils se connaissaient. Ouais, et sauf erreur de ma part, tu confirmeras peut-être, il a aidé Howard sur la cartographie de son univers imaginaire. Et donc, il lui a inventé les villes, etc. Et je crois qu'après, Howard a fait quelques nouvelles dans l'univers de Lovecraft en même temps que Derleth et compagnie, quoi. Donc oui, effectivement, ça communiquait beaucoup à l'époque.
Gilles Menegaldo, vous vouliez nous parler des personnages féminins. Il y avait des choses que vous vouliez dire sur le sujet.
Non, je voulais dire que c'était un point aveugle, justement. C'est-à-dire que les personnages féminins sont toujours présents, sont présents chez Lovecraft sous forme d'entités maléfiques, par exemple, ou de victimes, ou de sorcières. Enfin, il y a quand même un certain nombre de personnages féminins. Et puis, les monstruosités ou les entités ont des caractéristiques sexuées féminines. Donc, je veux dire qu'on trouve une forme de féminité à travers la monstruosité. Mais il y a quand même, bon, si on fait le répertoire de tous les personnages féminins, il y en a un certain nombre. Voilà, de tout, hein, c'est juste, et je crois que justement il y a des gens qui actuellement se penchent sur cette dimension de l'univers Lovecraft parce que ça a été très peu étudié, parce qu'on s'est dit bah oui, il n'y a pas de femmes chez Lovecraft, Lovecraft ne s'intéresse pas aux femmes. Et en fait, en répertoriant dans toutes les nouvelles, les récits, les personnages féminins, il y en a un certain nombre. Mais effectivement, l'image de la femme qui est donnée, je veux dire, est un peu particulière et pourrait déchaîner pas mal de controverses. Donc voilà.
J'ai pas tout lu, hein, mais j'en ai lu trois recueils. Je pense que j'ai vu une sorcière, une sorte d'apparition éthérée qui était très maléfique, la fameuse femme du marin qui ouvre la porte. Et je crois que c'est tout, en fait, en trois bouquins. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai ratées. Et il y a vraiment une absence. Hein. C'est pas... Qui ça ?
Lavinia Whiteley, oui. Oui, dans Dunwich.
C'est une sorcière.
Non, c'est la femme du sorcier.
Ah oui, ah non. Il faut les nourrir, les sorciers, c'est vrai. Mais non, mais il y a vraiment une absence. Hein. C'est pas, quand on n'y fait pas attention, quand on commence à réfléchir sur la présence des personnages, on voit bien, il y en a pas. C'est pas, je sais pas pourquoi. Hein. Faudrait analyser le truc ou demander à Lovecraft. Mais il y en a pas. Alors, soit Lovecraft considérait qu'elles n'avaient pas leur place dans ses bouquins, soit il en avait peur ou il savait pas écrire une histoire. Bah,
peut-être que c'était courant à l'époque aussi dans la littérature. C'était une littérature d'homme. Hein. Chez ouais, Jules Verne, il n'y a pas de femme non plus. Hein.
Ouais. Pas beaucoup, non, effectivement, pas plus.
Oui, enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il n'y a pas de personnage de premier plan. C'est assez rare à l'époque.
On est tout à fait d'accord.
Puis aussi, un classement des personnages. Dans Lovecraft, il y a les artistes qui sont des sortes de vecteurs du rêve et des messages venant de l'au-delà. T'as les universitaires qui sont tout en haut, alors ça c'est les gens super bien. Ils comprennent tous, ils analysent, journalistes aussi un peu, ça le fait. Et puis après, t'as tout un peuple, bon, sympa. Puis après, t'as quand même tous les dégénérés qui vivent dans les Appalaches, les gens, alors c'est pas trop, c'est les gens qui ont un peu, ouais, les Italiens, les immigrés. Et puis alors, tout en bas, t'as tous les sous-races qui servent seulement à adorer à se lâcher dans des esquimaux satanistes, comme je disais l'autre fois, même dans Cthulhu, c'est quand on va dans le sud de la Louisiane, c'est des mulattes, et alors ça, c'est vraiment, alors ça, bon. Mais en fait, quand on y fait attention, quand on lit, quand on continue à lire, on le retrouve à chaque fois. Voilà, il y a vraiment une classification du personnage. Voilà, on n'est pas, il n'y a pas tout d'un coup le jeune noir américain qui découvre quelque chose de fabuleux ou je sais pas quoi. Non, il est adorateur de secte, c'est bien, c'est sa place.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est bien le problème de l'idéologie lovecraftienne au sens large du terme. Il y a des textes effectivement qui sont assez désagréables et dans les nouvelles surtout des descriptions d'immigrés, etc. Alors peut-être la nouvelle de ce plan-là la plus explicite, c'est He, qui raconte l'histoire de l'évolution de la ville de New York, qui au départ est une ville évidemment colonisée par des blancs, puritains, etc. et qui petit à petit, comme dit Lovecraft, se mongrélise, c'est-à-dire s'hybridise avec des immigrés venus de différents pays, etc. Et ça devient monstrueux et insupportable pour Lovecraft, évidemment. Et lui-même a vécu, donc à certains égards, cette expérience quand il est allé à New York, quand il s'est marié avec une juive quand même, parce qu'il est aussi clairement antisémite hein, sur le plan culturel, mais il s'est marié avec une juive, donc là, vous voyez, comme une certaine contradiction. Il a vécu à New York et au bout de quelques mois, il n'a pas pu supporter. C'est ça qui lui a inspiré justement Horror at Red Hook, hein, où il décrit donc du moins un univers. Alors il parle de, je vais juste donner un exemple. Hein, encore une fois, j'aime bien Lovecraft, mais quand même là, il parle de italo-sémitico-mongoloïde. Hein. Voilà, non, c'est juste pour donner un exemple. Donc son racisme, il est réel. De la même manière que ses sympathies pour le fascisme sont réelles. Mais là encore, on peut lui pardonner d'avoir évolué un petit peu vers la fin de sa vie en disant que finalement, quand même, bon, Mussolini, ce n'était pas si terrible que ça. Puis Hitler, au début, il le dit, oh, c'est un clown, c'est un brave clown. Bon, et après, il s'est rendu compte qu'il disait des énormités. Il a quand même évolué, quoi, un petit peu sur le plan idéologique. Mais ça reste quand même... Alors, juste pour donner une petite justification, c'est aussi l'esprit du temps pour un certain nombre de personnes aux États-Unis. Je veux dire, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, etc. Donc, Voilà, c'est ça, il fait aussi partie de son temps à ce niveau-là. Mais c'est pas, il ne s'agit pas de l'excuser, bien évidemment. Et il y a des textes qui sont effectivement épouvantables quand il les relit. Et surtout, encore une fois, des passages de correspondance. Comme je vous disais, c'est un graphomane, donc il écrit des centaines de milliers de lettres. Il y a des pages entières d'éructations, il n'y a pas d'autre mot, par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs, hein, aux aliens. Hein, au sens, voilà. Donc, je
ne cautionne pas du tout ça. Alors, je vous propose un petit invité surprise. Christophe Thiel, s'il vous plaît. Il est l'auteur d'un guide sur Lovecraft. Voilà, et il va nous en parler s'il veut bien. Ah oui.
Bah, bonjour, merci pour cet accueil. Petit mot sur le guide Lovecraft, un petit bouquin dans lequel... Alors, ce livre a quand même une qualité, il faut le reconnaître, que n'ont pas les livres remarquables de mes camarades. Il est plus petit, moins cher, et il tient mieux dans la poche. En dehors de ça, bah, ce qu'on y trouve, c'est un petit peu différent. C'est un peu un tour d'horizon général de l'œuvre de Lovecraft. Alors, avec en tête, bien sûr, les gens qui ont envie de découvrir l'œuvre, mais enfin, il y en a un petit peu aussi pour les gens qui connaissent déjà, qui ont envie de voir, soit d'approfondir, soit de voir un petit peu des points de vue un peu différents. Alors, une chose à laquelle je me suis attaché, ça a été de donner un petit coup de balai dans les mythes. On a parlé tout à l'heure de Lovecraft, le prophète, communiquant avec les grands anciens, etc. Donc c'est une chose qu'il y a effectivement des gens qui ont écrit, qui ont pensé, hein, en particulier dans la France des années 50. Il y a d'autres mythes. Alors il y a un terme que j'aime particulièrement piétiner, qui est le reclus de Providence. Lovecraft étant quand même quelqu'un qui a fait des voyages, alors pas infiniment loin, mais enfin, il a quand même visité Québec, la Nouvelle-Orléans, Charleston, etc. Il a failli aller rencontrer Robert Howard au Texas, et puis bon, ça n'a pas pu se faire, pour diverses raisons. Enfin voilà, donc un petit bouquin, tour d'horizon, assez général, avec... J'ai essayé de mettre quelques petits traits d'humour parce que voilà, on disait aussi que Lovecraft, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas entièrement un triste. Et donc j'ai mis à la fin du livre un petit lexique sur des termes qu'on retrouve souvent comme blasphématoire, monolithe, bas-relief, hiéroglyphe, etc. Indicible, oui. Indicible, innommable. Alors il y aurait toute une étude à faire sur l'indicible et l'innommable, je crois, qui a sans doute déjà été faite en fait. Cyclopéen, évidemment, cyclopéen.
J'ai une petite question pour Karim Berouka. Quand on s'est attaqué à une apocalypse zombie et à la résurrection ou non de Cthulhu, quel horizon reste-t-il ?
Il nous reste tout l'espace intersidéral, les enfers. Ouais, y a toujours des choses à raconter en littérature. Hein. Vous avez une page blanche et vous avez... C'est à vous de faire travailler votre imagination, c'est pas très dur, hein. C'est juste d'arriver jusqu'au bout du bouquin et que ça se tienne, qui est plus compliqué.
François Baranger, vous avez donc un autre projet autour de Lovecraft, d'illustration de son œuvre ?
Ah oui, moi je refais la même chose avec une autre nouvelle.
Et parce vous savez déjà laquelle ?
Oui, c'est Les Montagnes Hallucinées. Parce que j'ai failli commencer par celle-ci, mais elle est beaucoup plus longue. Le texte est trois fois plus long que L'Appel de Cthulhu. Et donc je vais réussir à le faire tenir en deux tomes, je pense, de la même pagination. Mais j'ai préféré commencer par L'Appel de Cthulhu, d'une part parce qu'elle est plus courte, d'autre part parce qu'elle est sûrement plus connue. C'est-à-dire le mot Cthulhu sur la couverture, ça, quand même, ça parle plus aux profanes que Les Montagnes Hallucinées. Et en plus parce qu'elle est plus variée visuellement que Les Montagnes Hallucinées, qui se passe intégralement en Antarctique, sous la neige. Donc je vais avoir un défilé de pages blanches, alors que là, du coup, je pouvais aller dans le Bayou, en Louisiane, au milieu du Pacifique, à New York, etc. Donc c'était un peu plus varié pour un premier tome, quoi. Donc voilà.
Et on y...
Est-ce que tu veux aller faire des repérages en décor naturel ?
Mais bien sûr. J'ai donné une interview à Air Liée. Mais bien sûr. J'y suis allé en GPS grâce à Google Maps.
Et au niveau de l'avancement du projet, vous pensez que vous en êtes à peu près où ?
Au tout début. Non, il faut, pour faire simple, il faut à peu près un an pour faire un album comme ça, pour le produire du côté de l'illustrateur. Ensuite, il faut quelques mois pour le fabriquer. Et après, il faut l'envoyer en stock, en libraire, etc. Donc le temps de faire tout ça, ça nous emmène en octobre 2019 à peu près. Premier tome. Mais après, du coup, le moment où ça part en fabrication, moi j'aurais déjà commencé le tome 2. Et donc le tome 2 ne sortira qu'un an après. enfin qu'un an. Donc voilà, 2019-2020.
Je pense qu'on sera au rendez-vous. Gilles Ménégaldo, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je veux simplement dire que je vais organiser avec un collègue, Laurie Guillot, que pas mal de gens ici connaissent, un autre colloque universitaire sur Lovecraft, mais où je voudrais inviter justement aussi des artistes, des écrivains, des gens qui travaillent sur Lovecraft, mais qui ne sont pas forcément, justement, essayer de mélanger les deux milieux, qui sont parfois un peu trop éloignés. Voilà, ça aura lieu à Nancy en novembre, et ça sera évidemment, il y aura une information. Et l'idée, c'est d'essayer de faire le point, justement, pourquoi Lovecraft est aussi populaire aujourd'hui, enfin, des dernières années, à cause de toutes les adaptations, les réécritures littéraires, cinématographiques, théâtrales, etc., musicales aussi, parce qu'il y a quand même plein de groupes musicaux qui sont intéressés par Lovecraft. Et au-delà de ça, maintenant, c'est pas tant l'ésotérisme qui perdure, il y a toujours des fous qui pensent que Lovecraft est un grand ancien, mais il y a aussi des philosophes sérieux qui s'intéressent justement à Lovecraft à cause de la théorie du chaos, par exemple, ce qui est dit là-dessus. Il y a tout un tas d'écrits philosophiques sérieux, donc il y a un ami philosophe qui va venir parler de ça. Donc, en quelque sorte, l'actualité au sens large de Lovecraft maintenant, donc pour faire peut-être un dernier, sans doute, ouvrage autour de ça. Voilà.
Christophe Thiel, le mot de la fin ?
Ben, lisez Lovecraft, quoi. Je dis lisez Lovecraft. On croit des fois avoir lu Lovecraft quand on a lu une poignée de textes, etc. En fait, c'est une œuvre extrêmement diverse dans laquelle on trouve beaucoup, beaucoup de choses. C'est une œuvre qui est marquée aussi par l'écoulement du temps. Le Lovecraft jeune qui écrit Je suis d'ailleurs n'est pas du tout le même que celui qui écrit Les montagnes hallucinées. Donc il faut avoir ça en tête aussi. Il faut avoir cette notion de chronologie et d'évolution thématique, stylistique, voire idéologique autour de Lovecraft. Et puis aussi les essais qu'il a pu écrire. Et puis les choses aussi qu'il a pu publier sous le nom d'autres auteurs parce qu'il faisait des travaux de révision, mais dont une bonne partie sont en fait quasiment entièrement son travail à lui. Tout ça fait partie de l'œuvre de Lovecraft. Il y a quand même pas mal de choses à découvrir, même quand on croit avoir tout lu.
Oui, effectivement, il faut quand même rappeler les conditions très difficiles de publication de Lovecraft, hein, qui était un nègre littéraire, qui vivait comme ça, effectivement. Bon, ça, donc, il révisait les textes des autres. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut connaître, quoi. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je crois qu'il y a quelque chose dont on n'a pas assez parlé peut-être, hein, toujours, et peut-être qui explique aussi le renouveau d'intérêt des jeunes lecteurs, des jeunes générations de lecteurs pour Lovecraft. C'est justement son côté fantasy, au sens large, ou dark fantasy, hein, fantasy noire, notamment donc justement dans le ce qu'on appelle le cycle de démons et merveilles, qui comporte quatre textes très différents finalement, d'un certain très court qui sont plus proches d'une nouvelle un peu macabre, d'autres qui sont une sorte de quête onirique. C'est la recherche de Kadat, l'inconnu, et puis des textes qui sont inspirés par des théories physiques ou mathématiques, en particulier avec des collaborations, parce qu'il faut savoir aussi que l'autre aspect de Lovecraft, il est nègre littéraire, mais il est aussi collaborateur, il est aussi très généreux dans la mesure où il accepte de collaborer avec d'autres écrivains, ou d'autres écrivains acceptent de collaborer avec lui, et il publie ensemble des textes. Donc voilà, il y a cette idée de collaboration aussi. Donc d'un côté, il y a des aspects très négatifs chez Lovecraft, mais en partie liés à son temps et à sa propre histoire. Et d'un autre côté, il y a cette générosité qui le rachète, je dirais, un petit peu. Voilà.
Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir un petit peu plus l'œuvre de Lovecraft. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr nos auteurs à la bulle du livre. Oui, il y a une question ?
je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais on n'a pas pu parler de tout, mais Andrew Lehman, effectivement, est un jeune réalisateur. Alors, je rajoute juste un truc pour dire quand même qu'il y a un festival à Providence consacré intégralement, aux États-Unis, consacré intégralement, je crois que c'est à Portland, à l'œuvre de Lovecraft. C'est-à-dire qu'il y a tous les ans un festival consacré aux adaptations cinématographiques des œuvres de Lovecraft sur divers supports, etc. Et je crois que c'est le film d'Andrew Lehman a été découvert à cette occasion. Et c'est vrai que comme l'histoire se passe dans les années 20, il a utilisé un style, on va dire, un peu expressionniste à certains égards, surtout, donc film muet avec des intertitres, etc. Et donc c'est assez réussi, je suis tout à fait d'accord.
Il y a deux films, en fait, hein, qu'on trouve. Alors bon, voilà, moi je vous recommanderais plutôt d'essayer de les trouver en DVD. Plutôt que sur YouTube, parce que voilà, il faut bien faire vivre cette bande de passionnés. Il y a L'Appel de Cthulhu et il y a Celui qui chuchotait dans les ténèbres, qui ont été réalisés comme s'ils étaient sortis à l'époque où la nouvelle a été écrite. Donc L'Appel de Cthulhu en film muet avec ses intertitres. Et alors, on bénéficie sur le DVD du making-of. Donc on voit les gens préparer leur maquillage expressionniste, etc. Et voir ce qu'ils disent réellement quand ils parlent et qu'on ne les entend pas. Et il y a donc Celui qui chuchotait dans les ténèbres, qui est réalisé à la façon d'un parlant du début des années 30, avec des références à la prohibition, des trucages qui auraient pu être des trucages d'époque, sauf qu'évidemment ils font beaucoup appel à des trucages informatiques qui permettent de mettre un bonhomme qui danse à moitié à poil et d'en faire 5 cultistes au fond de la forêt.
Oui, tout à fait. Donc ça continue quand même. Il continue à produire des films qui ont un certain intérêt, même si on n'a pas encore le chef-d'œuvre lovecraftien.
Voilà, donc vous voyez, c'est très très riche. On va s'arrêter là parce qu'il y a une autre conférence. Donc je remercie nos auteurs, notre intervenant, et vous les retrouvez donc sous la bulle du livre. Merci.